Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bontés. Et surtout, Seigneur, merci pour le fait que tu sois El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Si souvent on se trouve, Seigneur, dans des situations où on a besoin de ta puissance, nous avons besoin de ta force, alors que l'on vit, on éprouve des difficultés à la maison, peut-être au travail, soit à la santé. Bien, Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu nous accompagnes. Que le El Shaddai nous accompagne, ce Dieu Tout-Puissant. Parle à nos cœurs ce matin, parce que nous savons bien qu'ici, ce matin, il y a des gens dans l'Assemblée qui vivent des temps tellement difficiles, soit sur le plan de la santé, soit au travail, ou même à la maison, peut-être même dans leur mariage, ou avec des enfants. Nous savons, Seigneur, que certaines personnes sont ici. Ils vivent des temps peut-être les plus difficiles de leur vie. Et ils ont besoin de El Shaddai. Nous te prions que tu puisses nous accompagner ce matin et nous bénir. Et nous voulons te louer. Au nom de Jésus. Amen. En 2005, quand on pense au mot puissance, à quoi pense-t-on? Eh bien, une recherche sur Internet montrera une liste de sites web sur la puissance. On parlera de la puissance d'un PC, des logiciels tels que PowerPoint. On va parler de la puissance de la pensée positive, à la puissance du jazz, la puissance de la publicité, la puissance du Mac, la puissance des jeux vidéo, la puissance du web, la puissance industrielle, et on pense aux grandes puissances mondiales telles que le G7 et G8. En fait, on retrouve plus de 3,4 millions de sites Internet en regard à la puissance. Au plan psychologique, plusieurs parlent de la puissance intérieure. Pensons notamment à Anthony Robbins, qui a écrit plusieurs livres, dont un s'intitule « L'éveil de votre puissance intérieure ». Le livre propose des techniques ou des stratégies qui, selon l'auteur, vous donneront le pouvoir de maîtriser vos émotions, votre corps, vos relations avec les autres, vos finances et votre vie entière, et vous entraîne dans l'univers fascinant de votre vie intérieure et vous apprend à réveiller le géant qui sommeille en vous. Eh bien, les psychologues aujourd'hui racontent aussi que nous sommes dans une société qui est très fatiguée et on manque de force et on manque de puissance. On pense notamment au « burn-out ». Et on pense même déjà, il y a quelques années, 47%, je lisais un article l'autre jour qui révélait que déjà en 2000, plus de 47% des Français déclaraient avoir éprouvé des fatigues persistantes. 3 ans après, une personne sur 5 s'est même rendue chez le médecin pour cause de fatigue. On dit que la fatigue est la maladie du siècle. On pense aux pressions sociales, on pense au stress, dans notre quotidien, selon ces experts. D'ailleurs, je parlais cette semaine à un professeur des autres études commerciales qu'on connaît mieux sous HEC à Montréal, l'Université de Montréal. Il enseigne des cours sur la planification financière et puis il me racontait comment il y a de plus en plus de pression sur les étudiants dans les études. Et d'ailleurs, il me racontait même d'ailleurs que le bac, il y a tellement de diplômés maintenant qui se cherchent de l'emploi que le bac n'a plus autant de reconnaissance sociale. Et il y a de plus en plus de pression sur les étudiants de trouver de l'emploi. Le bac ne fait presque plus. Maintenant, ça prend une maîtrise et un doctorat. Et ça finit plus. Il y a tellement de pression. Et que dire aussi de la pression dans le milieu du travail? On trouve le même phénomène. D'ailleurs, de plus en plus de cas de tentatives de suicide de salariés soumis à une pression psychologique impitoyable venant de leurs supérieurs. Je pense notamment à cet article que j'ai lu cette semaine, à une femme qui s'est jetée en bas d'un 3e étage, qui se trouve aujourd'hui paraplégique, et elle explique que son geste est en relation directe avec son travail. Et que dire de la pression du milieu des affaires, la compétition qui est féroce? Que dire aussi dans le milieu hospitalier? On pense au milieu du personnel soignant, de plus en plus de pression sur eux. Alors, le message aujourd'hui touche justement à cette question, la question que nous avons besoin, tous, chacun d'entre nous, de plus de puissance. Nous avons besoin de force. On se sent parfois impuissant face aux situations de la vie. Où trouver la force dont on a besoin? Et disons tout de suite que Dieu ne nous a jamais promis une vie facile. On retrouve de la souffrance et du mal partout. Et je peux vous garantir qu'ici même, dans ce culte ce matin, il y en a parmi vous, parmi nous, qui sont dans des souffrances incroyables. Vous souffrez en ce moment, certains parmi vous, que ce soit dans le milieu familial, il y en a qui sont sur le bord peut-être de la séparation, d'autres qui ont des gros problèmes de santé, sont hypothéqués sur le plan de la santé, d'autres ont de la difficulté à chercher d'autres travails. On a besoin de puissance. Il y a des gens qui souffrent et on a besoin de la souffrance, on a besoin de la puissance que Dieu nous promet de nous donner. D'ailleurs, on n'a pas besoin de mener une vie qui est privée de la puissance de Dieu. Dieu nous promet, Dieu nous dit, je veux que tu aies ma puissance aujourd'hui. Et à chaque jour, même au milieu de la souffrance, on a l'exemple fantastique de Job, Job qui a tout perdu. Job qui a perdu sa famille, ses enfants, qui a perdu ses biens, qui a même perdu sa famille, sa santé. Lui qui souffrait terriblement s'est retrouvé à pouvoir dire dans Job 6:10, « J'obtiendrai alors ce dernier réconfort de ne pas avoir trahi les ordres du Dieu saint. » Même lui qui avait tout perdu a réussi à rester fidèle, à rester debout, dans sa relation avec Dieu et rester intègre. Quelle était sa force? Je pense que son secret se trouve dans Philippiens 4:13 qui dit ceci, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans une autre version, la Bible du français courant, voici ce que nous lisons, « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » Dieu nous fait cette promesse. Et cette promesse est la suivante, que vous et moi, nous pouvons expérimenter la puissance surnaturelle, divine, illimitée de notre Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, oui, nous pouvons vivre la vie qu'il veut que l'on vive, même si on se trouve dans des difficultés et dans la souffrance. Dieu ne s'attend pas que l'on ne fasse que parler de la souffrance. Il veut nous brancher à sa puissance. Nous lisons dans 1 Corinthiens 4:20, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Dieu veut que nous connaissions sa puissance. Et comme on l'a vu ces dernières semaines, nous avons commencé une série sur les titres, ou sur les noms de Dieu. Et nous avons dit que chaque nom de Dieu qui nous est révélé dans les Écritures saintes, chaque nom de Dieu nous est donné pour nous dire que Dieu est en train, il peut répondre à chacun de nos besoins. C'est la façon propre à Dieu de pouvoir nous dire, tu as un besoin, je peux y répondre. Tu as un autre besoin, je peux y répondre. Chaque nom de Dieu est une façon propre à Dieu de nous dire, je peux répondre à ton besoin. Et le nom que nous voulons voir cette semaine, et que mon épouse a chanté, c'est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, qui veut dire, je suis votre Dieu Tout-Puissant. Nous avons un Dieu Tout-Puissant. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons accéder à cette puissance. Elle nous est disponible. Le psaume 68, 36 dit ceci. « De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. » Voyez-vous, les trois mots importants dans ce verset, c'est « à son peuple ». Il donne à son peuple la force et de la puissance. Maintenant, comme enfant de Dieu, on ne questionne pas que Dieu est puissant. On sait que Dieu est puissant. On n'a qu'à sortir à l'extérieur, puis voir la nature, et on voit la puissance de Dieu. Après tout, le psaume 151 dit « L'étendue manifeste sa puissance. L'étendue éclate sa puissance. » Mon beau-frère a décidé, il a pris une grosse décision. Il était directeur des ventes chez Rogers, directeur de tout le Québec. Il a décidé, lui, de tout abandonner. Il a laissé son emploi, vendu sa maison, s'est acheté un Winnebago, puis il est parti pendant un an avec sa femme aux États-Unis. Hey, hein, on aimerait tout faire ça, nous autres. Un an, faire le voyage des États-Unis au complet, puis il m'envoie par e-mail des photos de où est-ce qu'il est rendu. Juste me taquiner un petit peu. Pendant le temps que nous autres, on était dans la grosse neige ici, lui était dans les Keys, en Floride. Toujours bronzé. Chaque photo qu'il m'envoie, il est très bronzé, lui et sa femme. Un an de temps, il revient en avril prochain, là, dans quelques semaines. Un an de temps, dans presque un an, dans les États-Unis, il a tout vu, puis incroyable, il m'a envoyé des emails, des photos fantastiques du chef-d'œuvre de la création de Dieu. C'est fantastique de voir tout ce que Dieu a fait. Et il est juste aux États-Unis, pensons à travers le monde entier, le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Vous savez, on sait ça, que Dieu est puissant. Mais ce qu'on veut savoir, et c'est les vraies questions qu'on veut poser ce matin, hein, c'est est-ce que cette puissance-là m'est disponible à moi? Et deuxièmement, c'est comment je peux l'avoir? Pas vrai? C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça les vraies questions qu'on veut poser. Vrai? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dieu nous fait 4 promesses. Quand puis-je compter sur la puissance de Dieu? Premièrement, quand tu es fatigué. Est-ce que tu es fatigué? Oui, vous êtes fatigué ce matin. J'allais dire, ça paraît. On est tous fatigués. Parce que, Sam, aujourd'hui, on a de plus en plus de pression. Il faut être de plus en plus performant. On vit dans une société où il faut être performant, pas vrai? On n'est jamais assez performant. Le boss n'est jamais content. Il faut toujours être de mieux en mieux. Performer, hein? Puis tu es dans la vente, c'est jamais assez. You're the king on Friday. Héros vendredi, zéro lundi, tu recommences à zéro. C'est jamais assez. La compétition est féroce. Marketing, marketing, marketing. Faut vendre, vendre. Les chiffres ont descendu un petit peu. Faut battre des records. Puis ça n'arrête pas. On vit dans une société où il faut toujours, toujours, vite, vite, vite. Ça n'arrête pas. Alors, on est fatigué. On connaît ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a dit ce matin, c'est, tu sais, quand tu es fatigué, je peux te donner ma puissance. Ésaïe 40, verset 28, dit ceci, « L'Éternel ne se fatigue point. » Réalises-tu que Dieu n'est jamais fatigué? Jamais Dieu se lève un matin et il va dire, « Bon sang, j'ai mal dormi. » Hé, je suis fatigué ce matin. Hey, il y a une gang à Longueuil, là, tu sais, il n'arrête pas de me prier. Puis tout de même, ça me tente pas ce matin, je suis fatigué. Hein? Non, non, jamais. Dieu dit, « L'Éternel ne se fatigue point. » Jamais il se lève de mauvaise humeur. Gloire à Dieu, hein? Jamais il se lève fatigué. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quelle belle promesse. La promesse de ce que la puissance de Dieu est illimitée. Il n'est jamais fatigué. Il ne se lasse jamais. Il ne va jamais se coucher. Il a une énergie illimitée. À quel autre moment puis-je compter sur la puissance de Dieu? Bien, quand je n'ai plus rien à offrir, quand je sens que j'ai plus de jus. Est-ce que tu te sens comme ça des fois? Tu sens que tu n'as vraiment plus d'énergie puis tu sens que tu n'as plus de jus. Tu n'es plus capable. Il y a des chrétiens qui sont ici ce matin, vous avez été fidèles pendant des années. Ça fait des années que vous servez le Seigneur. Et là, vous êtes rendu à la place, vous avez travaillé à l'école du dimanche, vous avez lavé les planchers, vous avez tout fait dans l'église. Ça fait 20 ans que vous faites ça. Et là, aujourd'hui, vous êtes rendu à la place, hey, bon, ça s'est rendu aux jeunes. Là. Que ce soit donc les jeunes qui prennent la relève. Moi, je suis brûlé, je ne suis plus capable, je lâche. Hein? Je ne suis plus capable. Est-ce que tu te sens comme ça des fois? On se sent tous comme ça lorsqu'on sent qu'on n'a plus de jus à donner. Bien, le Seigneur est là, il te fait une promesse à toi ce matin qui te sent comme ça, qui me semble que tu n'as plus rien à offrir. Si même tu te sens, Dieu est en train de dire, bien, moi, je vais te donner ma puissance quand tu te sens que tu n'as plus rien à offrir. Moi, t'en donner pour que tu puisses commencer et continuer à me servir dans la puissance du Seigneur. Et des fois, on se sent comme ça, on sent qu'on n'a plus de jus, même à la maison. Vous êtes pris peut-être, vous êtes à la maison, vous sentez que vous êtes prisonnière avec des enfants à la maison, ça crie, puis ça crie, puis ça crie, vous n'êtes plus capable, puis là, vous êtes rendu au bout du rouleau, hein? Là, vous avez juste hâte que papa arrive le soir, puis là, prends la relève, c'est ton tour. Vous n'êtes plus capable, vous êtes brûlé. Et que dire, même quand les deux sont rendus sur le marché du travail, et là, tu arrives, hein, je parlais justement à un frère ce matin qui me disait comment lui se cherche un autre emploi, il travaille, il cherche un emploi parce qu'il pourrait être plus proche, parce qu'il travaille à Montréal, sa femme travaille. Ils arrivent le soir, lui, il fait à manger, il se dépêche, faire à manger, puis ça, il dit, normalement, il me semble que j'ai pas 2 minutes à moins. Incroyable comment ça passe vite. Le Seigneur dit, je vais te donner la puissance quand tu te sens comme si tu n'avais plus rien à offrir. Là, à ce moment-là, quand tu es brûlé, je vais te donner la puissance. Paul sentait comme ça. Paul sentait à bout de souffle des fois. Et il dira dans 2 Corinthiens 12, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Même quand il se sentait faible, on aurait dit que Dieu prenait la relève, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages et dans les calamités, dans les persécutions et dans la détresse, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Incroyable, hein? Mais avec Dieu, nous avons cette promesse. Il y a ici des gens, des frères et des sœurs, qui sont justement à bout de souffle. Mais Dieu peut vous donner la puissance dont vous avez besoin. Dieu vous fait une promesse. Il dit, laisse-moi envahir ta vie avec ma puissance. Le troisième moment où Dieu peut te donner sa puissance, et je peux compter sur la puissance de Dieu quand je souffre. Il y a des gens qui souffrent terriblement. Et tu as besoin de la force du Seigneur. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour te soutenir et te relever. Il y a toutes sortes de situations difficiles. Moi, j'ai connu des gens là, qui souffraient tellement même dans leur ménage. Ils pleuraient tout le temps tellement c'était difficile. Dans le foyer, je vous ai déjà parlé de ce frère qui, lorsqu'il finissait la journée, entrait chez eux et dans sa voiture, il pleurait après sa journée de travail, juste en chemin pour s'en aller à la maison. Puis il faisait juste demander à Dieu, « Dieu, donne-moi la force d'avoir une soirée tranquille. » C'est tellement difficile au foyer, il pleurait tous les soirs. Et sa femme, je suis certain, faisait pareil. Et c'était très difficile pour le couple, tous les soirs. Ça, c'est la souffrance. Il y en a d'autres qui viennent peut-être de perdre quelqu'un de très cher. Encore là, c'est de la souffrance. D'autres sont sous la pression financière, peut-être même sous le bord de la faillite. D'autres genres de souffrances. Et peut-être que vous êtes parents et vous voyez vos enfants vieillir et vous avez peur parce que vous voyez vos enfants peut-être prendre des décisions et qui vous font peur parce que vous savez que tantôt peut-être qu'il y aura des conséquences à des mauvaises décisions, des mauvais choix qu'ils sont en train de prendre. Ça aussi, c'est de la souffrance comme parent de voir vos enfants peut-être prendre un chemin qui n'est peut-être pas aussi sage que vous auriez aimé voir. Personne ici n'est au-dessus de la souffrance. Un jour ou l'autre, nous allons souffrir. On peut peut-être laisser transparaître comme si on était au-dessus de nos affaires, mais personne ici n'est à l'abri de la souffrance, que ce soit une question de santé, que ce soit le travail. Nous vivons dans un monde où, à quelque part, nous allons souffrir. Psaume 41:4 dit ceci. Nous avons cette promesse de Dieu. L'Éternel te soutient sur ton lit de douleur et te soulage dans toutes ces maladies. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que nous avons un Dieu qui peut nous soutenir lorsque nous souffrons? Je pense à cette semaine, hier matin, j'ai déjeuné avec Gilles Tessier. J'avais des examens à mes élèves de Saint-Hilaire. Et puis, pendant que les élèves faisaient leurs examens, moi, je suis allé prendre un café avec Gilles Tessier. Et Gilles, le pasteur de Saint-Hilaire, me racontait qu'il a eu le cancer il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois. Et il me racontait qu'il est allé à l'hôpital, dans la chambre de l'hôpital, il avait suivi une série de batteries de tests. Puis le docteur est venu dans sa chambre et lui dire, « Écoute, monsieur Tessier, je dois vous dire que vous avez le cancer du rein. Il va falloir vous enlever le rein. Et non seulement ça, il y a une tache sur le foie. On voit une tache et on ne sait pas ce que c'est. Et malheureusement, si vous êtes attaqué au foie, il n'y a pas beaucoup d'espoir. » Et honnêtement, là, tout d'un coup, Gilles a réalisé qu'il est devenu comme face à face avec la réalité de la mort. Il dit, Normand, tu peux même pas t'imaginer comment on se sent lorsque tu es sous le bord de la porte de la mort. Tout d'un coup, ça te frappe au visage. Tu sais, tu peux parler de la mort, tu peux parler des autres, mais quand ça te frappe, puis le docteur vient te dire, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et habituellement, il reste à peu près 6 mois. Et là, tout d'un coup, ça te frappe, Normand. Tu es devant cette réalité-là, tu es à quelques jours près de la mort. C'est vrai, tu es devant la réalité que tu vas mourir. Et là, il dit, normalement, je suis tombé dans un état de panique tout à fait second. Il a commencé à faire de la fièvre, il a fait 40 degrés de fièvre. Son pouls a augmenté, il est tombé dans un état de panique. Là. Son pouls a augmenté, il a commencé à faire de la pression. L'infirmière mesurait, puis grosse pression. Il dit, j'étais dans un état de choc pendant 1 heure. Parce que là, je réalisais, je vais mourir. Mais tout d'un coup, après 1 heure, Normand, il y a quelque chose qui s'est passé. Tout d'un coup, le Saint-Esprit a mis un verset sur mon cœur. Il a mis cette promesse dans Ésaïe 41:10. Juste là, alors que j'étais dans cet état tout à fait second, dans cet état de panique, tout d'un coup, le Saint-Esprit est venu me dire à mon cœur, Dieu est venu me dire, « Gilles, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. » Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et sais-tu ce qui s'est passé tout de suite après, Normand? Quelque chose de fantastique, alors que je méditais sur cette parole de Dieu qui a été comme soufflée dans mon cœur. Mon pouls est descendu, l'infirmière est venue dans ma chambre, a pris mon pouls était redevenu normal, ma pression avait descendu, était devenue normale comme un jeune homme. Puis il dit, Normand, ma fièvre a disparu. juste par un verset de la parole de Dieu, cette promesse que Dieu allait se tenir avec moi et m'aider et me donner le courage, la force que j'avais besoin. Ça, mes chers amis, c'est réel, hein? Ça, c'est pas juste se le dire puis s'encourager avec des paroles. Ça, c'est un gars qui était sur le bord de la mort dans son esprit. Et Dieu est venu lui donner la force qu'il avait besoin à ce moment-là, alors qu'il était dans la souffrance. Et il s'est relevé, heureuse nouvelle, ils ont enlevé le rein, mais heureusement, le foie n'était pas du tout attaqué. C'était une tache de naissance sur le foie. Aussi bizarre que ça puisse sembler, je ne savais pas si ça pouvait avoir lieu, mais c'était comme une tache de naissance, aucun danger. Et là, il est encore pasteur à l'église de Saint-Hilaire, gloire à Dieu. Vous savez comment Dieu nous donne la puissance, nous donne la force au moment où on en a besoin. Quatrièmement, il nous fait une promesse, et il dit, Seigneur, il dit, sais-tu quoi, je vais te donner de la puissance quand tu vas être tenté. Tu sais, quand tu es rendu devant la tentation, là, tellement difficile que tu as de la misère à te contrôler. L'apôtre Paul comprenait très bien. Il dit dans Romains 7, 18, il dit, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir. Pas le pouvoir de faire le bien. Je me sens frustré comme ça. Des fois, je veux faire le bien, mais je ne suis pas capable de le faire. Mais il dit, gloire à Dieu, par exemple. Gloire à Dieu qui nous donne la force de pouvoir résister à la tentation. Et sais-tu quoi, quand tu vas être tenté, tu vas avoir l'impression que tu étais juste sur le bord de laisser aller, d'abandonner et tomber, d'être induit en tentation, de tomber dans le péché. Dieu, il fait une promesse. Sais-tu quoi? Tiens bon, parce que je m'en ai aidé, m'a donné la force. Colle-toi à moi. Donne-moi donné la force. 1 Corinthiens 10, 13, Dieu nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vois-tu, même là, lorsque tu es devant la tentation, et tu sens qu'il te manque de force, puis tu vas tomber, tu vas chuter, tu vas mordre à la tentation, Dieu est en train de dire, sais-tu quoi? Il m'a donné la puissance, tu as besoin, pour résister à cette tentation-là. Je vais te la donner, la force. Je te fais cette promesse-là. Vois-tu, c'est ce que ces quatre promesses nous disent, en fin de compte, c'est quand tu es fatigué, il m'a donné la puissance, tu as besoin, pour continuer. Quand tu te sens comme si tu n'avais plus rien à offrir, je vais te donner la puissance, tu as besoin, pour continuer ton chemin. Troisièmement, je vais te donner ma puissance afin que tu puisses supporter la souffrance quand tu as besoin de mon aide, à ce moment-là. Et aussi, quand tu te sens tenté, au-delà de ce que tu penses être capable de contrôler, moi, je vais venir te donner la puissance que tu as besoin. On n'a pas besoin de vivre sans la puissance de Dieu. Elle est là, elle est disponible. Philippiens 4,13 dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » La puissance de Dieu, elle est là. Et il est triste de constater que plusieurs chrétiens ne se prévalent pas de la puissance de Dieu. Elle est là, la puissance. Maintenant, vous allez vous demander une question. Comment est-ce qu'on peut l'avoir? Laissez-moi vous donner le A, B, C de la puissance de Dieu. Premièrement, A, c'est admet que tu en as besoin. Vous savez, nous autres, on est fiers, très fiers, puis on pense des fois qu'on est au-dessus de nos affaires et qu'on n'a pas besoin de l'aide de Dieu. On passe la semaine sans prier, sans demander à Dieu son aide. Puis on pense qu'on est au-dessus de nos affaires parce que ça va très bien, peut-être que tu n'as pas de problème. Ça va très bien, tu penses, tu voles, mon ami, puis tu es au-dessus de tes affaires. Mais ça prend l'humilité pour reconnaître que tu as besoin de la force du Seigneur. Premièrement, admets-le. Proverbe 29, 23 dit ceci, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Tu veux la puissance de Dieu, premièrement, admets-le. Deuxièmement, ça te prend le deuxième pas que tu dois suivre, c'est « Branche-toi à la source de puissance. » Branche-toi. Admets-le, premièrement, deuxièmement, branche-toi. Connecte-toi. Tu veux la puissance de Dieu? Faut que tu te rebranches. Moi, des fois, j'oublie, puis j'ouvre mon portable, mon laptop, j'ouvre, puis j'oublie de me brancher dans la centrale électrique. Sais-tu ce qui se passe? Je marche sur ma batterie. Là, à un moment donné, ça va très bien. Je regarde la batterie, puis c'est parfait. C'est 97,5% d'énergie. Tout est bien beau. Je regarde ça, puis je dis, il n'y a pas de problème. On va continuer. On arrive, puis on continue, puis on travaille, puis on pense que tout est bien beau. Parce que tu marches sur la force du portable, de la batterie qui est là-dedans. À un moment donné, j'ai une bulle qui sort dans ma grosse fenêtre, une grosse bulle que M. Microsoft a mis, qui a placée, puis il veut me faire rappeler. Regarde là, regarde ce que tu as oublié de faire. Tu as oublié de te brancher à la centrale électrique, tu n'as plus de jus, mon gars. Puis il te reste juste 30%. Puis là, il y a une grosse bulle, une grosse fenêtre qui apparaît sur mon écran, et ça me dit, branchez-vous immédiatement. Ils ont même ce gros mot-là, immédiatement, tu as besoin de te brancher. Mais sais-tu, des fois, moi, je ne me branche pas, je me déconnecte du Seigneur. Et je suis débranché de la centrale électrique spirituelle dans le ciel et j'ai besoin de me faire brancher. Puis là, le Saint-Esprit vient me dire, Normand, branche-toi immédiatement à la puissance du Très-Haut, illimitée qui est dans le Seigneur. Tu sais, faut qu'on se branche. D'ailleurs, Jésus a donné une belle image pour ça dans Jean 15, 5. Il l'a dit lui-même, « Je suis le sept, vous êtes les sarments. » Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas marcher juste par tes propres forces. Ça va faire juste son temps, ça. Tu penses que c'est correct, mais attention. Tu marches tes propres forces, tu marches à la batterie, mais tu n'es pas branché sur la centrale. Tu marches tes propres forces, ça ne durera pas longtemps. Vois-tu, Dieu, l'Esprit Saint, veut nous donner un esprit de puissance. Nous lisons dans 2 Timothée 1,7, l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force. C'est un esprit de force qu'on a. Alors pourquoi rouler, pourquoi marcher sans la force du Seigneur? Ça fait penser à cette parade aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez ça, le Rose Bowl Parade, la grosse parade de fleurs, de roses aux États-Unis, c'est la grosse affaire dans le temps du football et tout ça. Puis un jour, c'était le jour de l'an, ça arrive vraiment toujours le jour de l'an, puis là, tu avais cette grosse parade aux États-Unis, le Rose Bowl Parade, et tout d'un coup, il y a un gros char allégorique, gros char, plein des milliers de roses dessus, tombé en panne d'essence. Maintenant, toute la parade a arrêté parce qu'il manquait de gaz. Alors là, il a fallu, la parade a littéralement arrêté là, puis jusqu'à temps qu'il y ait un gars qui parte, qui a cherché un galon de gaz pour mettre du gaz dans le char pour commencer la parade. L'ironie du sort, c'est que le char représentait la compagnie, le Standard Oil Company. Imagine-toi donc, c'est une compagnie de gaz, de pétrole, qui était propriétaire du char. Mais est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois, nous autres, les chrétiens, alors qu'on appartient au Dieu qui est El Shaddai, tout-puissant, mais on ne se remplit pas de l'essence spirituelle, de sa puissance, de son énergie pour mener notre vie chrétienne? Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Es-tu en panne d'essence spirituelle ce matin? Il te manque de jus, tu es fatigué, tu es brûlé? Branche-toi. Premièrement, admets-le. Deuxièmement, branche-toi au Seigneur. Mais troisièmement, c'est le pas le plus difficile. Choisis de suivre la voie de Dieu par la foi. Vous savez, nous autres, on aimerait ça avoir toute la puissance là, de Dieu avant de commencer, avant de partir. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu décides de suivre la voie du Seigneur par obéissance, par la foi. Tu bouges, tu te lèves, tu bouges, tu suis, tu marches. Et en chemin, Dieu va te donner la puissance que tu as besoin quand tu es rendu là. C'est ça qui est arrivé avec Moïse. As-tu remarqué que Moïse n'a pas eu... La mer s'est pas ouverte pendant qu'il était encore en Égypte, puis qu'il voyait la mer ouverte des kilomètres avant. « Ah, il n'y a pas de problème, tout le monde! Regardez, la mer est ouverte! Ah, Dieu a réglé tous les problèmes avant qu'on arrive! » C'est pas ça qui est arrivé, hein? C'est que Moïse est parti, puis il y avait je ne sais pas combien de milliers de personnes, peut-être 1 million, je ne sais pas trop combien de personnes. Il marche, puis c'est juste quand il était rendu juste sur le bord de la mer, juste là... Tu retournes d'abord, l'ennemi s'en vient en arrière, puis en avant de toi, c'est la mer, c'est pas bien mieux. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils étaient rendus là? Ils avaient suivi la voie que le Seigneur lui avait demandé de suivre, et rendu là, sur le bord de la mer, là, la mer s'est ouverte. Sais-tu, c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu veut que tu décides, tu te lèves, tu suis la voie du Seigneur, tu y vas par la foi, même si tu ne vois pas tout de suite le miracle que Dieu va accomplir quand tu seras sur le bord de la mer. Et Dieu dit, vas-y, tu vois, quand tu vas être rendu sur le bord de la mer, je vais te donner la puissance que tu as besoin. Je vais intervenir, puis je te fais cette promesse-là, tu vois, je ne te laisserai pas tout seul. Amen. Il faut marcher par la foi, par exemple. C'est ça qu'Hébreux 11 dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu ne l'as pas tout de suite. Des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça, c'est que tu bouges aujourd'hui, tu choisis de marcher avec Dieu, faire ce que tu as à faire, et tu vas voir, Dieu va te donner la puissance quand tu en as besoin. Dieu veut que l'on agisse avant de nous fournir la puissance. C'est d'agir comme si j'avais déjà la puissance, avant même d'avoir la puissance, afin d'avoir la puissance. Ouais? C'est ça la foi. Tu choisis de suivre la voie de Dieu, et tu fais... Ils travaillent ensemble. Il faut se brancher. Et quand tu es branché, tu vas suivre la voie que le Seigneur t'appelle à suivre. Lorsque je suis branché à Dieu, mes choix deviennent très clairs. Vous savez, il y a quelqu'un qui est Normando à l'église de Chamédé, qui cette semaine, j'ai rencontré Robert Goulet, guitariste. Il me racontait le témoignage de Normando, sa mère de 79 ans à l'église de Chamédé. Récemment, il y a quelques semaines, c'était à Pâques. Et puis, ils ont fait comme une sorte de trilogie à Pâques. Ils ont eu une soirée pour le vendredi saint, une soirée de samedi, une soirée dimanche. Et Normando, ça fait des années qu'il témoigne à sa mère. Sa mère a 79 ans, n'était pas ouverte à l'Évangile avant, et elle ne s'était pas convertie. 79 ans, en pleine santé, en pleine forme. Et ça aurait été facile pour Normando. Écoute, ça fait tellement longtemps que je lui parle du Seigneur. Elle ne veut rien savoir, je ne l'inviterai pas. Ça aurait été facile, hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'y aller par la foi. Il a dit, écoute, On ne sait jamais. Dieu me demande de partager l'Évangile, je vais le faire. Alors, il a invité sa mère à 79 ans au restaurant, juste avant le programme, la soirée. Alors, ils sont au restaurant. Et puis, Jean et Robert parlent de l'Évangile à sa mère. 79 ans. Elle accepte le Seigneur juste là. Pourquoi là? Elle n'a pas accepté le Seigneur à 5 ans. Elle a 79 ans. Elle est en pleine santé. Elle est assise. Elle est là. Elle accepte le Seigneur. Vous savez quoi? Elle est décédée dans la même nuit. Incroyable quand même comment Dieu est venu la chercher juste alors qu'elle était sur le bord. Elle ne savait pas. Elle est en pleine santé. Juste là. Imaginez si Normand avait dit « Ah, je l'ai témoigné. Je ne veux rien savoir. » Puis « Ah, hein? Ça ne donne rien. Ça ne donne rien de suivre la voie que le Seigneur nous demande de suivre. Ça n'a pas marché dans le passé. Imaginez. Juste là, avant qu'elle entre dans l'éternité, Dieu est venu la chercher, toucher son cœur, la sauver. Marche par la foi. Tu vois ce que Dieu va faire? Dieu va te surprendre. Dieu va te bénir. Il va te donner la puissance, la force à ce moment-là. 1 Corinthiens 2,5 dit ceci. Que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vois-tu? Fonde ta foi en ce que Dieu est capable. Pas sur la sagesse des hommes. Parce que, vois-tu, ta sagesse, des fois, va dire, ça n'a pas de bon sens que je suive cette trace-là, que je prenne ce chemin étroit et difficile. Ça n'a pas de bon sens. Mais Dieu te dit, choisis pas, marche pas selon la sagesse des hommes, mais marche d'après ma puissance. Marche comme ça. Ésaïe 40:31 dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Tu veux la puissance de Dieu? Alors, prends le ABC de la puissance de Dieu. Admets que tu en as besoin. Branche-toi et choisis de marcher par la foi sur les traces que Dieu a dressées devant toi. En l'an 320, Constantin était empereur de l'Ouest et Licinius de l'Est. Licinius, sous la pression de Constantin, avait accepté de légaliser le christianisme dans son territoire et les deux ont fait une alliance qui a été cimentée par le mariage de Licinius à Constantia, sœur de Constantin. Mais ensuite, Licinius rompit l'alliance et fit une nouvelle tentative pour supprimer le christianisme. Il ordonna à ses soldats de renoncer à leur foi en Christ, où ils allaient souffrir le châtiment d'une mort cruelle. Dans la légion Thundering, stationnée près de Sébaste en Arménie, 40 soldats refusèrent de renier le Seigneur, et lorsque les promesses, les menaces et les coups ne réussirent pas à ébranler leur engagement envers Christ, ils furent un soir complètement dévêtus et menés au centre d'un lac gelé. Et on leur dit, vous pouvez revenir à la rive quand vous serez prêts à renier votre foi en Jésus-Christ. Pour les tenter, on prépara des feux, des bains chauds, des couvertures, des vêtements, de la nourriture, des boissons chaudes, tout près de la rive. La mère du plus jeune soldat était même présente et encourageait son fils de la berge. Ces combattants chrétiens répondirent bravement. Ils dirent, « Vous pouvez prendre notre armure et même nos corps, mais l'allégeance de notre cœur appartient à Jésus-Christ. » Ils refusèrent de renoncer à leur sauveur, qui était mort pour eux, et au lieu de cela, ils se serrèrent les uns contre les autres et chantèrent un cantique de victoire en plein milieu du lac gelé. Alors que la nuit s'assombrissait, 39 hommes tinrent ferme, mais l'un d'eux s'écarta et courut à la rive. Alors une chose remarquable se produisit. L'officier qui avait la charge de surveiller ces hommes avait cru en Christ en secret. Il remplaça alors l'homme qui avait brisé le rang et se rendit lui-même sur la glace. Il jeta ses vêtements et confessa sa foi en Christ. Au lever du soleil, les soldats romains trouvèrent 40 hommes gelés qui avaient tout donné pour la cause de leur Seigneur. Mes chers amis, comment un homme, comment une femme peut résister à de telles persécutions? Moi, je peux vous dire, c'est par le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et elle était disponible ce matin. Admets que tu en as besoin par un acte d'humilité, par la prière. Admets que tu as besoin de la puissance de Dieu. Branche-toi à lui, colle-toi à lui. Peut-être que tu t'es éloigné récemment, mais tu as besoin de te coller au Seigneur, ce matin, revenir à lui pour jouir de cette puissance qui est illimitée, qui est divine, qui est surnaturelle. Et suis, décide de marcher par la foi, même si tu ne vois peut-être pas cette puissance dans ta vie aujourd'hui. Suis les traces. Choisis de marcher dans les voies que le Seigneur a tracées devant toi par la foi. Et tu vas voir, le El Shaddai va venir t'accompagner et il va déverser sa puissance sur ta vie. Prions, Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, Oh, El Shaddai. C'est à ce Dieu que nous prions ce matin. Nous prions au Dieu El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi se priver tant de puissance? Pourquoi s'éloigner de toi, Seigneur, le Dieu El Shaddai, qui est la source, la centrale de cette puissance surnaturelle et illimitée? Nous voulons cette puissance, Seigneur. Nous voulons jouir de cette puissance illimitée, du Dieu El Shaddai. Merci pour tes promesses que tu veux nous donner, ta puissance, lorsque nous sommes fatigués. Lorsqu'on sent qu'on n'a plus de jus à donner, plus rien à donner, plus rien à offrir. Lorsque l'on souffre, Seigneur, et lorsque je suis tenté. Oui, Seigneur, nous sommes tous ici, soit fatigués, soit à bout de souffle, soit dans la souffrance où nous sommes tentés. Mais tu nous fais cette promesse, Seigneur, que tu ne laisseras pas tout seul, que le El Shaddai veut venir dans ma vie et me fortifier. Alors nous admettons tout d'abord, Seigneur, notre faiblesse et notre besoin de toi. Nous voulons nous brancher à nouveau, nous voulons nous coller à toi. Et nous repartons d'ici encore plus déterminés que jamais de marcher par la foi, Seigneur. Même si les événements autour de nous semblent nous donner l'impression que rien ne nous accompagne et nous sommes tout seuls. C'est faux, c'est un mensonge, Seigneur. Nous savons que le El Shaddai est tout près. Et tu vas intervenir au moment où nous aurons besoin de ta puissance. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.